France Musique.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel.
10 minutes de musique et de cinéma, voilà le nouveau volet de Tendez l'oreille. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un instrument, le cor, à l'écran comme hors écran.
Exactement Gabriel. Le cor d'harmonie est un de ces instruments qui me fascinent véritablement. Ses origines se perdent dans la nuit des temps. Nous avons tous cette image d'Épinal, un peu manuel scolaire de la Troisième République, de la mort de Roland à Roncevaux, sonnant désespérément et une dernière fois, un instrument ressemblant à une corne qu'on appelle parfois olifant. C'est une corne d'animal stylisée, ornementée, dont on a taillé l'extrémité en forme d'embouchure pour faire vibrer les lèvres. Est-ce que vous voulez voir comment ça sonne, Gabriel ?
Je voudrais surtout écouter comment ça sonne.
Ah oui, ça marche mieux. C'est joli, hein ?
Ah mais c'est magnifique.
Oui. Après, bon, les capacités mélodiques sont quand même assez limité. Richard Wagner, lui, quand il veut inventer une mythologie, il reprend cette idée de corne originelle, cette idée d'olifant, mais il lui donne quand même les capacités du cor moderne. Ici, écoutez l'appel de cor dans l'opéra Siegfried. Avec cet imaginaire mythologique de l'instrument naturel, avec cette recherche de l'instrument originel, avec ce lien avec la nature, on commence à reconnaître qu'il y a de multiples facettes au cor. Au cinéma, par exemple, on reste dans la tradition. Si on veut placer de l'action dans la forêt, on va chercher du côté des fanfares de cor de chasse. Michael Kamen, Robin des Bois, Prince des voleurs, en 1991, avec Kevin Costner. Vous voyez l'idée, les cors de chasse version Hollywood. Évidemment, cette image du cor dans la forêt ne vient pas de nulle part. Prenons Haydn par exemple. Il s'occupe de contribuer à inventer la symphonie. Il s'agit donc aussi de trouver, eh bien, quoi lui faire dire à cette symphonie, à cet orchestre. Haydn sait alors qu'il peut se tourner vers une musique qui existe déjà, la musique populaire, la musique dite folklorique, entre gros guillemets, comme le comitas de tout à l'heure d'ailleurs, en musique arménienne. Nous sommes en 1800 dans l'oratorio Les Saisons de Haydn, qui décrit l'effet du passage des saisons sur la nature et la vie des paysans. Il décrit la chasse grâce au cor, forcément.
Certes Christophe, mais utiliser le cor en orchestre, ça n'est pas que pour décrire la chasse quand même.
Et non, effectivement, l'avantage avec le cor, c'est que c'est un instrument assez versatile, au bon sens du terme, assez changeant, capable de plein de sonorités différentes.
Le cor est un instrument noble et mélancolique. Il se fond aisément dans l'ensemble harmonique. Aucun maître, à mon avis, n'a su en tirer un parti plus original, plus poétique en même temps et plus complet que Weber.
Ça, c'est Berlioz qui le dit dans son traité d'orchestration dans les années 1830. Écoutons donc le cor se fondre aisément dans l'ensemble harmonique. Le cor, selon Weber, l'ouverture du Freischütz. Nous sommes toujours dans la forêt, mais là, c'est une forêt paisible, une manifestation de l'état de nature.
Thank you.
encore utilisé en chorale. On retrouve presque la distribution en soprano, alto, ténor et basse. C'est une autre facette du corps. Il est ambigu, il est beau, il est rond, mais il ne s'engage pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il pense vraiment. Et ça, cette ambiguïté, on découvre qu'on la met encore mieux en valeur quand on utilise le corps en solo plutôt qu'en chœur de corps.
Alors je sais qu'il s'agit d'une question d'orchestration pure, mais comment mettons-nous en valeur un instrument dans l'orchestre, Christophe ?
Eh bien, on crée un sentiment d'attente, on installe un tapis de cordes, ce qui plante le décor, et une fois installé, l'instrument n'a plus qu'à s'exprimer. Et une fois que les compositeurs découvrent ça, ils le font tout le temps, en classique comme au cinéma, un tapis de cordes, et puis ensuite, solo de corps. Prenez le final de L'Oiseau de feu de Stravinsky. Solo de corps sur tapis de cordes, prenez allez, un autre russe, Alexandre Borodine, dans sa deuxième symphonie.
Je commence à avoir l'idée. Et est-ce qu'au cinéma, c'est différent ?
Eh bien, le cinéma n'échappe pas à la règle. Grâce à tous ces compositeurs qui ont mis en musique la forêt en utilisant le son du corps au fond des bois, on découvre le mystère du son du corps. C'est une sonorité ronde, chaleureuse, mais surtout très sourde. Ainsi, dès qu'on veut donner du mystère à un thème, on le fait jouer par un corps. Ça donne des personnages sonores plus intéressants. Allez, rien que dans la musique de Star Wars par John Williams, tous les thèmes passent à un moment ou à un autre par ce traitement. Nappe de cordes et solo de corps par-dessus. Prenez le thème de la force, par exemple. Voilà, là, donc, c'était Luke Skywalker qui s'entraînait à faire du corps. Ou encore, allez, le thème de Leia et de Luke. Et enfin, le thème de Leia, tout court, mon préféré. Voilà, partout une nappe de corps et on attend le solo de corps. Le corps au cinéma, finalement, il y a du, Il y a du Weber dedans, il y a du Haydn. Composé avec du cor, ça n'est jamais anodin, donc c'est utilisé le descendant d'un instrument originel, et puis c'est l'expression de la nature, et quand il est dans la forêt, il exprime l'inconnu, le lointain, le sombre, comme pour les films qui se passent dans l'espace, finalement. Je vais dédier cette chronique à mon frère qui est corniste.
Vous êtes sympa, Christophe. Merci beaucoup de vous retrouver à cette chronique, en tout cas votre frère, entre autres. Tendez l'oreille sur le site francemusique.fr et je vous dis à samedi prochain.
Et bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.